Petit colis, oui, Vanny Bacan. Jojo, tout c'est moi. Ici, on n'a pas de stock pour te pas briser. Les délais sont de 3 mois.
3 mois? C'est une blague.
Fini les arnaques. Avec Mondial Pare-Brise, profitez du plus gros stock de Martinique pour changer de pare-brise. En centre, à domicile ou au travail en 45 minutes seulement. Pas de démarche administrative, pas d'avance de frais. Plus rien n'impacte votre quotidien avec Mondial Pare-Brise.
Et en ce moment, pour tout changement de pare-brise et lunettes arrière, Mondial Pare-Brise vous offre jusqu'à 100 euros de franchise.
Jedi Mat Martinique est à vos côtés avec ses promos spéciales extérieures. Jusqu'au 4 mai, venez profiter de nombreux produits à des prix super promo. Retrouvez le carrelage extérieur 45 par 45 cm beige modèle City à 10,90 euros le mètre carré ou la tôle ondulée 75 centièmes à 17,90 euros le mètre linéaire. Toutes les promos sont à retrouver dans vos 3 magasins Jedi Mat à Place d'Armes, Rivière Salée et Dillon avec la nouvelle entrée côté McDo. Jedi Mat, au cœur de l'ouvrage.
Le journal avec l'Anne Automobile.
Tout de suite, le grand journal de cette fin de journée, présenté par Adeline Courson. Bonsoir.
Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, la crèche de Morne-Pitot fonctionne tant bien que mal. Faute d'approvisionnement en eau, l'établissement a dû fermer hier. Il a pu rouvrir aujourd'hui, mais son fonctionnement est fortement perturbé. Nous irons sur place dès le début de cette édition. L'approvisionnement en eau qui interroge nos élus. Qui est responsable? Le président de Cap-Nord plaide pour la mise en place d'une autorité unique de l'eau. De son côté, la CTM fait le point sur les réserves du côté de l'usine de Vivet au Lorrain. Quels sont les besoins en main-d'œuvre en Martinique pour l'année 2024? C'est le résultat d'une grande enquête menée conjointement par France Travail, Ex-Pôle Emploi et la CTM. 3300 entreprises ont participé au questionnaire, tous secteurs confondus. La population carcérale explose en France et surtout dans les Outre-mer. Le ministère de la Justice a publié ses derniers chiffres aujourd'hui. Le nombre de détenus a augmenté de 6% en un an. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump, condamné à 9000 euros d'amende pour outrage. L'ancien président des États-Unis accuse sur les réseaux sociaux d'être actuellement jugé par un magistrat et des jurés impartiaux. Et puis, que mangeront les athlètes pendant les Jeux Olympiques? Les chefs retenus pour l'événement dévoilent leur plat. Il y aura du diététique, bien sûr, mais aussi des recettes gourmandes comme ce croissant à la poire et à la truffe. L'arrivée du quintet aujourd'hui, c'était à Fontainebleau, le 3, le 8, le 2, le 11 et le 15. Les hauteurs du François sont en souffrance, notamment dans le quartier Morne-Pitot. Depuis mercredi, 1 millier de foyers est privé en eau potable. Dépendant du réservoir de Morne-Serpent, géré par Odyssey, les usagers sont pénalisés par le manque de ressources. Parmi eux, la crèche de Morne-Pitot. Hier, elle a été contrainte de rester fermée pour des raisons d'hygiène. La ville du François a installé hier une citerne mobile. Jessica Dantin s'est rendue sur place.
Sur les hauteurs de Morne-Pitot, la crèche a pu rouvrir enfin ce matin et accueille de nouveau une quarantaine d'enfants. Mais c'est pas sans peine, à en croire les textes.
Alors, je ne sais pas qui n'a pas fermé, mais moi je ne sais même pas trop l'utiliser parce que je ne l'utilise pas trop. Mais vous avez vu, on a un petit peu d'eau. Voilà, c'est la situation de la crèche de Morne-Pitot.
Un quotidien perturbé depuis maintenant une semaine. La directrice de la structure, Sonia Alcindor, nous en dit plus avec cette privation d'eau potable.
Je sais qu'on renvoie l'eau la nuit, mais nous ne sommes pas là la nuit. Et donc, la situation devient vraiment préoccupante. Alors, nous essayons autant que faire se peut d'accueillir les enfants, mais je ne sais pas jusqu'à quand on va pouvoir continuer ainsi. Nous utilisons une citerne, on nous renouvelle l'eau tous les jours pour tout ce qui concerne le nettoyage, les WC, les sanitaires, et nous utilisons de l'eau en bouteille pour tout ce qui concerne la cuisine.
Avec l'appui de la mairie du François et la coopération des parents, à qui il est demandé notamment de ramener des draps et des serviettes pour l'hygiène des petits, faute de lessive sur place, Sonia Alcindor, de son côté, fait tout pour maintenir l'activité afin de ne pas pénaliser les emplois du temps.
Le seul retour des parents que j'ai, en tout cas, ils nous ont dit bon courage, c'est tout. Voilà, bon courage. Je peux les comprendre, hein, parce qu'eux, ils travaillent. Fermer la crèche, ça voudrait dire qu'ils trouvent une autre solution de garde. Donc, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, en tout cas en utilisant ce système, parce que c'est vraiment pas évident.
L'ensemble du personnel, en tout cas, espère un retour à la normale au plus vite, notamment pour la santé des petits.
Voilà le reportage à la crèche de Mandepito de Jessica Dantin. Des difficultés qui se poursuivent également dans le centre. Odyssey annonce ce soir de nouveaux tours d'eau sur les communes du Lamentin et de Saint-Joseph. En cause, selon l'opérateur, une limite de la production sur l'usine Durand, un défaut d'approvisionnement de la SME et une limite de la production de l'usine de Vivet avec 20 000 mètres cubes par jour. Alors qu'en est-il exactement dans cette usine du Lorrain? Le point avec Valérie Veilleur, responsable du service opérationnel au potable et irrigation à la CTM. Elle répond à Kathleen Bilascopette.
On a une production qui est limitée par une avarie sur un ouvrage hydraulique, le dessableur de la Capot, ce qui limite le débit d'eau entrant à l'usine. Donc ce débit aujourd'hui est limité à 1200 m3 au lieu de 1500 m3. On a réalisé effectivement sur cet ouvrage des travaux de réhabilitation et de renforcement parasismique en 2023 et sa remise en eau a entraîné une avarie sur l'ouvrage, ce qui repousse la finalisation des travaux et la reprise d'un fonctionnement normal. On est en attente d'équipement pour pouvoir finaliser les travaux. La fin des travaux est programmée pour la fin du mois de juin 2024. Dès lors que l'ouvrage sera remis en état, on pourra fournir un débit de 1500 m3 à l'usine de Vivet.
La responsable du service opérationnel eau potable et irrigation à la CTM, Valérie Veilleur. Les tours d'eau concerneront donc dès ce soir le Lamentin sur les réservoirs Sarro, Roche-Carré 1 et 2 et Morne-Pavillon. D'autres quartiers seront ensuite perturbés dans la commune et ce jusqu'à dimanche. Saint-Joseph sera également concerné de samedi à dimanche. Odyssey indique mettre à disposition des communes, des citernes et des packs d'eau qui seront distribués aux abonnés. Dans le centre en tout cas, les habitants subissent depuis plusieurs semaines donc des difficultés. Odyssey avait d'ailleurs pointé du doigt la responsabilité de Cap-Nord dans le manque d'approvisionnement en eau. Selon eux, le PCI ne jouerait pas le jeu de la distribution. Faux, selon le président de la communauté d'agglomération du Nord, Bruno Nestor Azéro. Des travaux sont d'ailleurs en cours à la source Morestin, mais elles ne suffiraient pas à combler tous les besoins des Chalcherois pour autant. Pour le maire de Sainte-Marie, la solution de l'approvisionnement en eau doit venir d'une autorité unique, comme il l'a dit Erika Govindora.
La solution in fine dans tout cela, c'est de mettre en place cette structure unique de l'eau. Je pense que ce sera la réponse, parce qu'au lieu que chacun gère à sa manière, sa petite boutique, Espace Sud, Cassem et Cap Nord, que nous ayons une structure unique avec un président, peut-être un seul, pas trois, mais avec un seul président, pour faire en sorte que les choses soient réparties et soient gérées autrement et différemment. Maintenant, ça n'empêche pas le fait qu'il va falloir que nous réparions nos tuyauteries, qui sont quand même défectueuses en souterrain. Parce que même si on va au plus de l'eau, et puis tu n'auras pas bon, côté de l'eau aura passé. Donc il y a le problème demeure. Donc je pense que ce qui est important, c'est que nous arrivions, nous élus, à nous parler, à nous entendre, faire en sorte que nous puissions trouver le maximum de financement, parce qu'il faut de l'argent pour tout ça, pour faire en sorte que nous ayons tout ce qu'il faut pour satisfaire nos populations. Et en tout cas, s'il faut que je m'efface pour faire en sorte qu'il y ait un seul président qui ne soit pas Bruno Nestor-Azéro pour gérer l'eau en Martinique, je le ferai. L'essentiel pour moi, c'est de donner l'eau à l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais.
Bruno Nestor-Azéro qui est également mobilisé sur l'angoisse des habitants de la cité Grenade à Ajoupa-Bouillon. Leurs habitations construites dans les années 80 avec de l'amiante menacent leur santé. À chaque averse, disent-ils, c'est un peu plus d'amiante qui se disperse. Les ouvriers ne veulent plus venir faire des réparations d'électricité ou de plomberie de peur d'être contaminés. Dans ce contexte donc, une délégation d'habitants s'est rendue au Marigot, au siège de Cap-Nord pour avoir des réponses. Le président Bruno Nestor Azéro assure ne pas avoir toutes les clés du dossier en main. Il propose au collectif de se réunir une nouvelle fois en début de semaine prochaine en présence des techniciens de Cap-Nord. Une réponse insuffisante selon Léandre Marimoutou, membre du comité Cité Grenade l'Ajoupa-Bouillon. Il est au micro d'Erika Govindorazo.
On nous dit qu'on s'assimier. Il fait réunion et puis technicien, puisque nous remettons bête à fond, peut-être qu'il y a à comprendre. Et puis conclusion, et que ben nous, au lieu de nous réunir, tant d'autres bails, nous pas à comprendre. Si mieux fait ça comme ça, et puis les qui parient, qui ouais nous, pour nous n'y en bagaille bien debout, bien droite, pour les yo dit nous, comment n'y la joue pas yo, pour nous n'y en réponse, pour nous pas dire ça viendra, ça viendra. Parce que d'après moi, n'y en l'eau l'argent, n'y en l'eau monde qui a bénéficié de l'étude cap non aujourd'hui jour. Parce que n'y en l'eau dossier au café, puis en l'eau photo en coulée, même bagaille la fait, tu vois, donc ça cagne l'eau là, j'en dépense inutilement. Et en plus, nous proposer un bagaille. nous rouvrons, nous dit comme ça. Que je dis, si c'est l'argent, il besoin. Si besoin aller à la CTM, si besoin aller à l'ARS, ouais, nous reportons mon neuf au bon ballon parce que nous besoin sortir dans la situation que nous avons.
Les prix du carburant grimpent en mai. Dès demain, le sans-plomb coûtera 1,86€ le litre, soit 6 centimes de hausse. Le gasoil prend 4 centimes et passe à 7,78€ le litre. Quant à la bouteille de gaz, elle augmente légèrement de 2 centimes et passe à 25,43€ les 12,5 kg. La Martinique a toujours besoin de main-d'œuvre. C'est le résultat d'une enquête menée par France Travail en partenariat avec la CTM. 3300 entreprises ont répondu au questionnaire et proposé, et malgré les besoins, elles ont moins l'intention d'embaucher cette année. C'est ce qu'a indiqué Stéphane Baillet, le directeur régional de France Travail, au micro de Florence Treuil.
Après plusieurs années de progression, on est à 14 000 intentions d'embauche, on revient à peu près à 2021. Voilà, on a eu deux pics 2022-2023, qui étaient assez exceptionnels. Là, on revient à une normalité de l'intention d'embauche. Globalement, tout le monde baisse, tous les secteurs. On reste toujours dans les mêmes secteurs qui embauchent, surtout le commerce, bien sûr aussi le bâtiment. On reste à peu près dans les mêmes tendances que l'année dernière.
Donc 14 000, hein, c'est ça vous disiez cette année, dont 23% de projets saisonniers.
Oui, le taux n'est pas très fort, parce qu'on est quand même une région très touristique. Mais il y a eu des changements aussi dans les recrutements dans l'hôtellerie-restauration. Ils ont beaucoup plus recruté en CDI. Alors qu'avant, on était plus sur des CDD saisonniers pour aussi fidéliser la main-d'œuvre et directement dans les hôtels et les restaurants.
Le directeur de France Travail Martinique, Stéphane Bailly. La pénurie de sucre va-t-elle se poursuivre? Comment se porte la filière de la canne? Pour y répondre ce soir, Florent Aussu et Erika Morgeon reçoivent l'ensemble des acteurs de la filière. Rendez-vous dans quelques minutes à 18h30 dans les Mardis Éco. La surpopulation carcérale bat un nouveau record en France. Selon les derniers chiffres mensuels publiés par le ministère de la Justice, il y avait 77 450 détenus au 1er avril. C'est 6% de plus en un an, un phénomène qui touche aussi les Outre-mer, Aline Druel.
77 450 détenus pour 61 570 places opérationnelles. Au début du mois, la densité carcérale totale en France était, selon l'administration pénitentiaire, de 125,8%. Des chiffres qui pourraient même être encore plus élevés quand on sait que plus de 17 000 personnes sont écrouées mais sans mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. En Outre-mer, la densité carcérale est de 137,4%, c'est 12 points de plus qu'en France hexagonale. 6284 personnes étaient détenues au 1er avril dernier. C'est à Mayotte, au quartier détention du centre pénitentiaire de Majicavo, que la densité carcérale est la plus importante, près de 282%. Vient ensuite le quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane, avec 201,5%. Quatrième et cinquième, les prisons de Bemao et de Ducos. On y enregistre, pour les quartiers et maisons d'arrêt, une densité carcérale de 178%, avec 447 détenus pour 251 places disponibles, ça c'est pour l'établissement guadeloupéen, et de 166% pour celui martiniquais, avec 617 détenus pour 371 places. En ce qui concerne enfin la maison d'arrêt de Basse-Terre, la densité carcérale y est de 141%, avec 182 personnes écrouées détenues, pour une capacité opérationnelle affichée de 129. Paris, Aline Druel, RCI.
Haïti connaît le nom de son nouveau président, Edgar Leblanc-Fils. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle retransmise en direct à la télévision locale. Les 7 membres du conseil de transition ont choisi cet homme à l'issue d'un accord et non à l'occasion d'un vote. Il aura fallu plusieurs semaines de négociations complexes marquées par des revirements pour que le conseil voie le jour, en cause des désaccords entre les partis politiques et les autres parties prenantes, mais aussi avec le gouvernement sortant. Le Conservatoire de musique d'art de Martinique sera installé au lycée Schœlcher. Le chantier de 5 millions d'euros a débuté. Ces 1300 mètres carrés seront installés dans les anciens bâtiments de l'établissement scolaire. Au total, 5 bâtiments y seront consacrés. Les premiers devraient être prêts d'ici la fin de l'année, avec une rentrée des classes théâtre prévue au début d'année prochaine. L'Institut s'articulera ainsi en 3 grands axes, comme l'explique Serge Letimu, président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique. Il est au micro de Florence Treuil.
Ça nous permettra d'avoir deux axes. La première chose, c'est on veut que ce soit un conservatoire martiniquais, avec la Martinique dans son patrimoine. Donc en conservatoire, je le dis comme je le pense, Bocaï. Et nous voulons absolument que ce soit d'abord une reconnaissance de nous-mêmes par nous-mêmes, pour bien démontrer que nous avons des richesses matérielles et immatérielles considérables et qu'il faut protéger et valoriser, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr l'intermédiaire, la formation professionnelle. Et la troisième étape, c'est la territorialisation. Sainte-Marie-Belay, chercher piano, Trinité violon, s'appuyer sur l'expertise des gens qui sont déjà là. Je suis très ému parce que ça va nous faire franchir une deuxième étape après l'immense étape franchie par Aimé Césaire avec la création du CERMAC. Parce que nous allons nous appuyer sur le CERMAC aussi. Nous allons nous appuyer sur le CMAC aussi. Personne ne sera oublié. Cette deuxième étape, elle sera beaucoup plus professionnelle et permettra d'avoir des formations de très 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 haut niveau. Ça me semble quelque chose de très important pour la Martinique.
L'actualité sportive à présent est la quatrième étape du Tour cycliste junior. C'est conclu cet après-midi à Rivière-Pilote. Les coureurs sont partis du Robert pour une étape de 97 km. On retrouve sur place Patricia Germay. Bonsoir.
Bonsoir Adeline.
C'est le jeune Guadeloupéen Kenny Tézénas du Vélo Club Saint-Année qui a remporté l'étape ce soir, Patricia.
C'est exact, Adeline. Effectivement, le Guadeloupéen Kenny Tézénas, qui n'est pas dangereux au classement général, permet à Loïs Jean-Baptiste Simone de conserver son maillot jaune, mais également grâce au travail collectif de ses coéquipiers du Team Crédit Mutuel Garage Premier. Cette étape a été très animée par les sociétaires du club Delos Vanitas Cyclisme, et cela a été aussi profitable aux Guadeloupéens, particulièrement Cyril Baena, qui part en solitaire à la sortie de la ville du Robert. Il sera rejoint à Saint-Plus par un groupe de 8 coureurs accompagnés du maillot jaune. Et ce groupe va évoluer sur la RN5 jusqu'au ce groupe qui comptait plus d'une minute de retard va faire jonction à quelques mètres du giratoire de Poirier. Effectivement, une fois jonction faite, c'est dans un sprint massif lancé à quelques mètres de la ligne qui verra justement le coureur de l'USL Kenny Tézénas remporter cette étape au sprint. Demain, l'étape, ce sera la dernière et la cinquième Robert de 106,3 km à couvrir pour voir qui succédera à Dave Louison, vainqueur du Tour Junior 2023. Il était un coureur de la TFCA en Guadeloupe.
Merci beaucoup Patricia Germay pour ce point sur la quatrième étape. On vous retrouvera demain avec toute l'équipe et Georges Claude pour cette donc cinquième et dernière étape du Tour Cycliste Junior. Il est 18h17 sur RCI. Dans un instant, les recommandations des experts pour les enfants exposés aux écrans. Et puis, nous irons aux États-Unis où Donald Trump a été condamné pour outrage.
Carrefour.
Cher client. Suite aux négociations commerciales menées avec nos fournisseurs, à la baisse du coût de certaines matières premières et à notre volonté de vous proposer les meilleurs prix, nous avons baissé les prix permanents de plus de 1000 produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Par exemple, le litre d'huile Le Sieur est maintenant à 3,55€ au lieu de 4,55€, soit une baisse de 21%.
Le détail et les conditions de cette baisse de prix sont disponibles sur carrefour-martinique.com.
Carrefour, j'ai choisi Mercedes-Benz.
Je vous en prie, installez-vous, je vais prendre vos mesures. Alors la longueur, très bien. La largeur, parfait. Et la hauteur, excellent. Pour la matière, on part sur du cuir? Et pour les finitions, plutôt sport ou plutôt confort?
Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes à côté de la Galeria pour les ventes privées taillées sur mesure les 3 et 4 mai 2024.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La suite du journal, Adeline Courson.
C'est un rapport qui fait grand bruit auprès des parents, celui de l'exposition des écrans chez les enfants. Un groupe d'experts a remis ses conclusions à Emmanuel Macron aujourd'hui. Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans. Une trentaine de recommandations au total avec un objectif, éduquer les enfants aux nouvelles technologies, Thomas Després.
Oui, des nouvelles technologies jugées responsables de beaucoup de maux, des troubles du sommeil, de la vue, l'obésité, des comportements agressifs. Il faut des réponses urgentes, écrit le rapport. Alors, vous avez évoqué l'interdiction de tout écran avant 3 ans. Les spécialistes préconisent qu'il en soit de même à la maternité, à la crèche. Concernant les portables, là aussi, rien avant 11 ans. Ensuite, les auteurs du rapport suggèrent des mesures progressives. D'abord, un téléphone sans internet jusqu'à 13 ans, puis sans réseaux sociaux jusqu'à 15. À l'école aussi, les experts réclament une meilleure application de la loi, c'est-à-dire le portable interdit purement et simplement dans les établissements, mais aussi une meilleure réglementation au lycée. Enfin, les parents, eux aussi, sont priés de ranger leur portable un peu plus souvent, oui. Et ça vaut pour tous les âges, hein, pour passer un peu plus de temps avec leurs enfants, loin des écrans.
Thomas Després, il est 18h20 sur RCI. Donald Trump condamné à 9 000 $ d'amende pour outrage. L'ex-président des États-Unis est jugé depuis 3 semaines à New York dans l'affaire Stormy Daniels, cette ex-star du porno qu'il aurait payé pour taire leur relation. Le juge a ordonné une peine de 1 000 € d'amende par infraction, soit 9 au total. Et l'ancien chef d'État pourrait même passer par la case prison s'il ne retire pas ses fausses accusations d'Internet, Karine Auton.
Oui, pour la première fois ce matin, l'idée de voir Donald Trump derrière des barreaux est devenue concrète et ça montre bien comment l'ancien président est ingérable. Le juge l'avait pourtant prévenu, interdiction de s'attaquer à ceux qui témoignent à son procès, y compris sur les réseaux sociaux, ce serait de l'intimidation. Une jurée a notamment quitté le jury après un poste de Donald Trump. En salle d'audience, l'ancien président s'est carrément endormi à plusieurs reprises malgré l'enjeu historique de ce procès. On sent aussi qu'il trépigne, il est frustré par son principal l'avocat Todd Blanche, pas assez agressif à son goût. Il est de plus en plus comme un lion en cage. Sa stratégie de se servir des audiences comme d'une antichambre de sa campagne commence à faillir. Il se retrouve finalement enfermé alors que son opposant Joe Biden, lui, est sur le terrain tous les jours.
L'actualité internationale et l'ONU inquiètent des projets d'Israël dans le sud de la bande de Gaza. L'opération terrestre de Tsahal sur place serait, je cite, une tragédie sans nom. C'est le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, qui a fait cette mise en garde ce soir. Malgré les avertissements d'organisations humanitaires et de nombreux pays, dont les États-Unis, Benjamin Netanyahou a réaffirmé son intention d'entrer dans Rafah, une ville pourtant devenue un refuge pour 1,5 million de Palestiniens, pour la plupart réfugiés du nord de la bande de Gaza. Dans le même temps, le Hamas s'est vu remettre une proposition de trêve d'Israël impliquant un échange d'otages et prisonniers. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le menu olympique dévoilé aujourd'hui à la presse, la cantine olympique sera le plus grand restaurant de France durant une quinzaine. Et ce matin, les chefs ont dévoilé une partie de leur plat sur la péniche qui accueillera la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver, Pierre Herbulot ?
En fait, il y a au village olympique beaucoup de points de restauration et donc il y a plus de 500 recettes alors à la fois pour les athlètes, les bénévoles et puis pour les visiteurs aussi. Alors moi, j'ai foncé directement sur celle de la chef Amandine Chéniaud.
On a pris des très jolis croissants qu'on a passé au four. Je le farcis avec un petit peu de purée d'artichaut. Ici, ça c'est un œuf poché, un petit peu de terre de sel et là par-dessus, en finition, on va rajouter quelques cocos de truffes et de tomes de brebis qu'on va pouvoir manger comme ça, un peu comme un cornet en se baladant.
Alors, à côté, Alexandre Mazia, chef 3 étoiles à Marseille. Un merlu aux épices avec du tapioca dans un bouillon de légumes. Il y a quelques dizaines de plats de grands chefs comme ça. Le reste est géré directement par Sodexo avec des immenses buffets, un bar à salade, un stand de grillade, un stand de pâtes, de desserts. La méchante de l'histoire, c'est Carole Galissant, diététicienne nutritionniste.
Charles, par exemple, dans l'Espace France, va proposer une blanquette de veau. Je lui ai seulement demandé d'être un peu précautionneuse sur la sauce qui est plutôt crémée, de me l'alléger un peu. J'ai vraiment laissé passer le culinaire en premier pour qu'elle soit goûteuse et appétissante. Par contre, il faut qu'on soit très clair sur les valeurs nutritionnelles pour que l'athlète puisse se repérer.
Bon, derrière, les sportifs s'autogèrent. Ils voient ça, les quantités et ce qu'ils prennent avec leur coach directement. L'œuf mollet, croissant truffe, c'est plutôt après la médaille d'or.
Merci beaucoup Pierre Herbulot pour ces explications. On termine avec les courses. Elles ont eu lieu à Fontainebleau aujourd'hui. Le rappel du quintet du jour. 3, 8, 2, 11 et 15. Demain, elles auront lieu à Saint-Cloud pour le prix de Fouilleuse. 14 partants sont au départ. Gisèle vous conseille de jouer le 11, le 3, l'As, le 6, le 4, le 5, le 8 et le 2. 11, 3, As, 6, 4, 5, 8 et 2. Pour le 2 sur 4, Gisèle vous conseille le 3 et le 11 et le départ est prévu à 9h15. Il est 18h24 sur RCI, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité régionale, c'est tout à l'heure à 19h. Avant cela, vous retrouvez Florent Aussu et Erika Morgeon pour les Mardis Éco. Ils vont faire un point sur la filière canne, c'est à 18h30.
Voilà, c'était le dernier journal d'Adeline Courson.
C'est vrai, c'était mon dernier journal.
C'était avec, émotion et déjà un petit brin de nostalgie qu'on vous dit au revoir, Adeline, après ces 6 années à nos côtés.
4 Bon, je sais je fais jeune, mais.
4
Ouais. Quatre années, tout à fait. Je suis arrivée en avril 2020 à RCI et j'ai intégré cette belle maison. Et
qu'est-ce que vous retenez, justement, de ces 4 années?
Vraiment, la chose qui m'a le plus marqué, c'est les auditeurs. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de chance à RCI d'avoir des auditeurs comme ça qui sont aussi proches de la radio et qui nous le rendent à chaque fois quand on va sur le terrain, quand on les écoute sur le répondeur, qui nous appellent. Donc voilà, en fait, je remercierai jamais autant les auditeurs qui à chaque fois m'ont salué et m'ont remercié pour mon travail aussi. Donc voilà, c'est surtout les auditeurs que je tenais à remercier. Et puis mes équipes, bien sûr.
Écoute, oula, écoute.
Kathleen Bilascopette, arrêtez de casser le matériel de ce studio.
Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi pendant cette période. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup, merci. Puis je vous embrasse.
Et la Martinique, c'est l'île aux revenants. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais voilà.
Voilà. Donc à bientôt. À bientôt. Florent, on ne vous entend pas. Allez-y, parlez.
Moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et surtout de continuer sur la lignée. Et vraiment, d'autres avant toi ont fait leurs adieux et sont revenus dans pas très longtemps après. Donc, ce n'est qu'un...
Un au revoir.
Un à bientôt.
Un à bientôt. Merci à tous, merci.
Plein de bonheur dans vos nouvelles aventures.
Merci beaucoup, merci. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez apporté. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à toutes et à tous. Arrêtez d'avoir vos yeux mouillés là, parce que ça va pas le faire. Je vous embrasse. Au revoir. Et puis je retrouve les auditeurs encore dans une demi-heure. Ça sera ma dernière pour le flash local et régional. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Adeline Courson, on aura plaisir à vous retrouver tout à l'heure pour un dernier flash info de la journée. Ce sera à 19h sur RCI.
L'info continue sur www.rci.fm. RCI, c'est la vie. Découvrez les offres Boost chez votre concessionnaire Lann Automobile avec des remises exceptionnelles. De quoi booster votre mobilité avec les véhicules sans permis Aixam. Boostez votre confort avec les SUV électriques Subaru et CRS. Et boostez vos travaux avec les pick-up Isuzu D-Max. Jusqu'à 6000 euros de remise. Avouez que c'est du super boost. Venez vite en profiter dans votre concession Lann Automobile, les Hauts-de-Californie, Lamantin. Voir conditions en concession. Bouger, se déplacer, moins polluer.
La ligne Alerte Info sur RCI. Vous souhaitez nous contacter, nous communiquer une information? Composez le 63 31 31. Soyez les contributeurs de la rédaction d'RCI. 0596 63 31 31. La ligne Alerte Info de RCI. 63 31 31.
Leclerc.
Jusqu'au 12 mai, vos Leclerc défendent encore et toujours vos super pouvoirs d'achat avec le sachet de 1 kg de manchons de poulet surgelé Origine France à 2,99€. Oui, 2,99€ le kilo. Ou encore le sachet de 1 kg de ragoût de porc surgelé avec os au prix mini de 4,25€. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Alors, pas mal, non?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Préparez-vous à être séduit par le Festival Jazz and Art de Sainte-Lucie. Du 30 avril au 12 mai 2024, dansez sur les rythmes de DJ et Voice. Plongez dans les sensations jazz de Samara Joy et John Petitucci. Laissez le gospel de Danny McLaughlin vous transporter. Ressentez l'énergie de Machel Montano. Swingez avec les tubes indémodables de Béré Samand. Vibrez avec les succès de Davido. Ne manquez pas les classiques d'Air Supply et le brio de Babyface. Découvrez la programmation complète et réservez vos billets sur sainte-lucie-jazz-and-art-festival.com dès aujourd'hui.
L'heure vous est offerte par Gédimat Martinique.
Gédimat,
au cœur de l'ouvrage. Il est temps de prendre un bon yaourt Mentlité.
Mentlité, yaourt Matinique. Fabriqué au verre près depuis 1952.
Bon début de soirée sur RCI, il est 18h30.
Jedi Mat Martinique est à vos côtés avec ses promos spéciales extérieures. Jusqu'au 4 mai, venez profiter de nombreux produits à des prix super promos. Retrouvez le carrelage extérieur 45 par 45 cm beige modèle City à 10,90€ le mètre carré ou la tôle ondulée 75 centièmes à 17,90€ le mètre linéaire. Toutes les promos sont à retrouver dans vos trois magasins Jedi Mat à Place d'Armes, Rivière Salée et Dillon avec la nouvelle entrée côté McDo. Jedi Mat, au cœur de l'ouvrage.
Grand moment moins nos listes. C'est une raison. Il était toujours de garder moi. José, moi j'ai l'as du grand côté petit, petit côté grand. Et je suis là, conti maman y a savouré le nouveau yaourt Mentlité 1952. Avec la bonne recette en temps longtemps. Comme quand j'étais petit. Des pots en verre, du lait concentré, un yaourt ferme à la texture si particulière. Six saveurs inoubliables. Le nature sucré et le nature, mais aussi les pots en verre aromatisés aux arômes naturels de goyave, de coco, de citron et de vanille. Ouai, maman, ça bondonne.
Mentlité, yaourt, Matinique. Fabriqué au verre près depuis 1952. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Mangezbouger.fr.
18h30, 19h. Info plus sur RCI. Le mardi, c'est Mardi économique. Florin Aussu.
Aujourd'hui est mardi, vous avez rendez-vous avec votre magazine hebdomadaire Mardi Éco-Société, présenté par Florin Aussu et Erika Morgeon de France Antilles. Bonsoir.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'actualité économique. Bonsoir Erika.
Bonsoir Florin, bonsoir à tous.
On a choisi ce soir de s'intéresser à la filière canne, sucre, rhum, filière en pleine activité, on le voit autour de nous, la récolte bat son plein dans les champs, mais d'autres problématiques sont venues s'ajouter également, on en parlera avec nos invités dans un instant. On a le plaisir d'accueillir, on va présenter nos quatre invités, Eric Eugénie, directeur de la SICA Cannes, la Société d'intérêt collectif agricole. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Michel Berroir, le directeur général de l'usine du Galion. Bonsoir.
Bonsoir Florin.
Bonsoir à vous. Claude Féliot, le secrétaire général du Coderom et secrétaire général du syndicat de l'AOC Martinique est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci à vous aussi d'être venu. Et enfin, Olivier Groslot, directeur du centre technique de la canne et du sucre, est également présent en studio. Bonsoir Monsieur Groslot.
Bonsoir aux auditeurs d'RCI.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons, une fois n'est pas coutume, parler malheureusement des choses qui fâchent. Des choses qui fâchent parce qu'il y a un dossier, une thématique qui ressort évidemment dans l'actualité et vous avez certainement été interpellés tous les quatre, à mon avis, depuis plusieurs semaines. Mais c'est Michel Berroir à qui je vais m'adresser en premier. Michel Berroir, le sucre se fait denrées rares. En ce moment, c'est la chasse aux œufs. Et la chasse au sucre. Pour les œufs, on a eu un début d'explication, un début de solution est en train d'être trouvé. Ça devrait rentrer dans la normale. Qu'en est-il du sucre ? D'abord, pourquoi cette pénurie dans les rayons en ce moment, depuis de longues semaines, voire même depuis plusieurs mois ?
Oui, alors nous avons eu là une conjonction de plusieurs facteurs. C'est vrai, au début de cette pénurie, j'ai beaucoup parlé d'un problème avec, on va dire un stock gagé, d'accord? Mais il faut dire aussi derrière qu'il est venu s'ajouter, en fait, la pauvreté de la canne que nous recevons aujourd'hui.
On en reparlera dans un instant.
Et donc cette pauvreté fait que, bon, nous ne produisons pas suffisamment pour pouvoir non seulement rétablir le stock nécessaire au gage, mais également fournir le marché correctement.
Il y a une réelle pénurie de sucre de canne en Martinique aujourd'hui ?
Ben, on peut dire ça. On peut dire ça, puisque nous ne produisons pas suffisamment. Si nous produisions beaucoup plus, effectivement, nous aurions pu faire non seulement le réassort du marché, mais également, en fait, compléter le stock nécessaire au gage.
Alors, les projections sur les semaines et les mois à venir, est-ce qu'on va pouvoir importer du sucre d'ailleurs ? Est-ce qu'on va avoir des solutions à disposition ?
Alors, c'est vrai que pour compléter notre production, en général, nous fournissons un peu en Guadeloupe. Mais il faut dire que la situation de la récolte en Guadeloupe n'est pas non plus très belle. Elle n'a même pas encore véritablement commencé.
Elle est même tendue. On va même dire qu'elle est tendue.
C'est ça. Donc du coup, là aussi, nous n'avons pas la possibilité en fait de se fournir sur la Guadeloupe. Quoi.
Et donc dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des solutions externes à la région? Est-ce qu'il y a des possibilités d'import d'autres territoires?
Il y a certainement des possibilités d'import, mais en tout cas les prix ne sont pas les mêmes. D'accord, donc forcément, in fine, le coût et le prix de vente non plus d'un kilo de sucre ne sera pas le même. Voilà.
Alors cette qualité de la canne, hein, visiblement cette année c'est vraiment la problématique. Erika, je pense que c'est vraiment aussi la deuxième thématique de l'émission de ce soir. La canne 2024, elle est pas bonne.
Alors justement, Eric Eugénie, aujourd'hui on est le 30 avril, on en est où de la récolte de la canne? Fin février, quand on s'était parlé, on était plutôt optimiste. Et là, avec un début de carême pluvieux qui affecte la teneur en sucre de la canne, on a entendu les planteurs dernièrement justement s'inquiéter ou se plaindre, notamment de la sucrerie du Galion. On en est où? Elle se présente comment cette canne et qu'est-ce qu'on peut en espérer cette année?
Alors, la récolte est difficile, il faut le reconnaître, mais pour plusieurs raisons. Mais je voudrais rappeler quand même aux auditeurs que les planteurs de canne, comme tous les agriculteurs de la Martinique, travaillent dans la nature, dans le vivant. C'est-à-dire que il pleut, il y a du soleil, il y a des difficultés et le planteur, il subit. Il n'est pas comme dans une usine, la sucrerie, où il y a une toiture et il est protégé. Donc, nous subissons les changements climatiques depuis des années. Nous parlons depuis très longtemps des problèmes de mauvaises herbes, on pourra y revenir. Nous parlons des problèmes de sécheresse, puisque chaque année, depuis 12 ans, nous avons une sécheresse. Par an. Et en réalité, le planteur est pratiquement exsangue parce qu'il n'a plus les ressources pour continuer réellement à produire de la canne. On continue parce que les planteurs aiment ça, aiment ce métier dans la nature, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui,
C'est compliqué? Pourquoi il n'a pas les ressources? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu?
Alors, le directeur du CTCS pourra donner des explications, mais aujourd'hui, comme je le disais, nous avons une seule canière d'environ 4000 hectares. Nous avons théoriquement de quoi produire pour satisfaire les besoins de la sucrerie du Galion et des distilleries. Mais le planteur n'arrive plus à produire suffisamment de canne à l'hectare, puisque nous sommes aux environs de 50 tonnes de canne à l'hectare. L'idéal serait d'avoir 70 tonnes, parce que nous avons beaucoup de mauvaises herbes dans les champs, parce que nous avons des problèmes climatiques, comme on l'a dit, et peut-être que nos variétés, il faudra réellement que la recherche s'y intéresse avec l'aide du CTCS, pour qu'on trouve des variétés productives qui résistent au changement climatique.
Alors justement, Olivier Grelot, y a deux choses dans cette affirmation et dans cette thématique. D'abord, on n'a pas assez de rendement à l'hectare. C'est à cause des mauvaises herbes. Est-ce que c'est parce qu'on a voulu être trop vert dans l'approche? On sait qu'on a essayé de rendre cette culture de la canne propre, clairement sans produit, sans utiliser de désherbants. Est-ce que ça a freiné le développement des récoltes?
Effectivement, les producteurs sont devant le fait suivant qu'ils n'ont de moins en moins de solutions, je dirais, phytopharmaceutiques pour les aider dans la production de la canne à sucre. Donc, on se rabat bon an mal an sur d'autres techniques telles que la sélection variétale pour avoir des variétés plus productrices, plus couvreuses des sols. On travaille aussi sur la mécanisation du désherbage. Et le pis-aller, je dirais, le plus rapide pour tenter de sauver les meubles par nos producteurs, c'est quand même la main-d'œuvre, l'arrachage, l'extirpation manuelle de l'herbe dans la canne. Donc c'est vraiment des situations extrêmement complexes qui font que pour une culture à cycle long comme la canne à sucre, les producteurs y passent beaucoup plus de temps et malheureusement le travail qui passe dans leur champ n'est pas valorisé comme il aurait pu l'être avant.
Et est-ce que ça signifie, alors, que fait le CTCS, Centre Technique de la Canne et du Sucre, et comment vous pouvez aider la filière aujourd'hui à s'adapter au changement climatique ou à améliorer le rendement?
Alors, très bonne question. Alors, le Centre Technique de la Canne et du Sucre, c'est, je dirais, un organisme de recherche appliquée sur la canne à sucre, au service de la filière. Donc, nous avons deux grands pôles. Un pôle agronomique qui s'occupe de la matière première, hein, le sujet dont on parle tout de suite, et un pôle, je dirais, technologique qui s'occupe plutôt du suivi de fabrication en sucrerie et au niveau des différentes distilleries. Donc, par rapport à nos sujets de recherche agronomique, nous avons, comme nous l'avons dit précédemment, la sélection variétale. Donc, on a imaginé un schéma de sélection variétale beaucoup plus pragmatique que par le passé, où nous faisons rentrer un nombre limité de nouvelles variétés que nous expérimentons sur des sites à travers l'île. Et ce qu'on recherche, c'est de trouver des variétés qui sont plus productives que celles que nous avons. Avant, nous avions un système de sélection qui était beaucoup plus compliqué et qui ne donnait pas forcément les résultats, ou en tout cas des résultats qu'on pourrait escompter.
Mais vous disiez, Olivier Grelot, que la question de l'arrachage de la mauvaise herbe, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et je me tourne vers vous, Éric Eugénie. J'avais eu l'occasion d'en parler avec vous il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, lors de précédentes campagnes. Il y a un manque cruel de main d'œuvre. C'est ça le vrai fond du problème. Parce que la mauvaise herbe peut être arrachée à la main. C'est tout à fait faisable, mais on n'a pas de personnel pour le faire.
Alors, il faut nuancer, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que, comme dit le président Séraline, qui est dans ses champs actuellement, que je salue, demander à la jeunesse martiniquaise de retourner dans les champs pour arracher les herbes, ce n'est pas très, très encourageant pour l'avenir. Par contre, comme l'a dit Olivier Grelot, nous travaillons beaucoup sur la mécanisation pour trouver des moyens pour arracher les herbes avec des tracteurs, des outils. Mais le problème de la main-d'œuvre a été plus ou moins réglé depuis à peu près 2 ans. 2 ans parce que nous avons, à force de pousser des cris d'alarme pour dire que la canne va mourir à cause des problèmes de mauvaises herbes qui envahissent les champs, hein, l'herbe va manger les engrais, consommer les engrais, consommer l'eau nécessaire à la plante et consommer le soleil, qui permettent la photosynthèse. C'est pour ça que la mauvaise herbe ou les herbes indésirables, parce que ça peut être une herbe médicinale, mais les herbes indésirables de cette culture sont dangereuses parce qu'elles concurrencent directement la canne. Alors, le dispositif qui a été mis en place, c'est de faire appel à la main-d'œuvre haïtienne qui se trouve sur le territoire, qui était en situation irrégulière. Et avec l'État, on a mis un dispositif en place où on régularise la situation des travailleurs, des ressortissants d'Haïti pour 6 mois renouvelables, ce qui permet depuis à peu près 2 ans et demi aux agriculteurs, aux planteurs de bananes et de cannes notamment, qui bénéficient du dispositif, d'avoir une main-d'œuvre. Ça nous aide énormément.
Mais c'est une solution à court terme, c'est une solution d'urgence, c'est pas une solution pérenne pour une filière d'excellence. J'y reviendrai dans un instant. Dans le cadre de l'AOC, ça ne peut pas être une solution pérenne.
Alors, c'est une solution provisoire. Alors, on veut mettre l'accent quand même sur le fait que le dispositif haïtiens, et il y a des Saint-Luciens aussi qui viennent sur le territoire. Depuis 20 ans, ce sont les mêmes qui reviennent, mais il y a à peu près 150 Saint-Luciens qui viennent, qui ont des contrats bien précis et qui viennent aussi faire l'entretien des champs. Le dispositif haïtien nous donne quand même une certaine fierté parce que on met concrètement la coopération caribéenne. Nous avons des gens qui sont sur le territoire parce qu'il y a des problèmes chez eux que nous connaissons, nous n'allons pas y revenir, qui étaient en situation irrégulière. Et aujourd'hui, ces gens, pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup, travaillent, ont des contrats, ont une convention collective, ils sont payés au même titre que les Martiniquais ou tous les ouvriers agricoles, ils ont le SMIC ou plus, ils font des heures supplémentaires. Donc, quelque part, on permet la régularisation et gagnant-gagnant parce qu'en même temps, nous bénéficions de la force de travail. Mais ce n'est pas une solution. La solution, c'est de trouver des robots, c'est de trouver des tracteurs, c'est de trouver la mécanisation. Mais pour l'instant, c'est difficile. La recherche n'y arrive pas. Sinon, dans le monde entier, on aurait déjà des solutions qu'on aurait expérimentées à la Martinique. Pour l'instant, même dans le monde entier, c'est difficile.
Michel Berroir, tout à l'heure, nous parlions de la teneur en sucre de la canne. C'est vrai qu'on a entendu les planteurs s'inquiéter de leur rémunération, car visiblement, lorsqu'ils vendent leur canne à la sucrerie du Galion, la rémunération varie en fonction de cette teneur en sucre, c'est ça? Comment c'est calculé?
Alors déjà, juste pour compléter ce que Eric et Jeunet a dit, effectivement, quand on utilise de la main d'œuvre pour désherber, forcément derrière, le coût de la matière première, de cette matière première, augmente.
Oui.
Voilà. Donc, non seulement elle augmente, mais en plus, on n'a pas non plus la rentabilité à l'hectare qu'on aurait pu avoir si on avait
une machine
ou un truc comme ça. Voilà. Donc, cette canne qui est livrée à la sucrerie est payée à la richesse, en partie.
Elle est payée combien la tonne, en général?
Ben, écoutez, d'abord, elle est payée à la richesse en partie.
Ah.
D'accord? Okay. C'est vrai que c'est un paiement qui est un peu complexe, puisqu'il y a trois intervenants sur ce paiement, sur ce prix, en fait. Il y a la part usine, qui est d'environ... à la richesse, parce qu'il y a une autre partie qui est, je dirais, alors 44,84 € à la richesse, plus 16 € au poids. Ça, c'est la part usine. D'accord? Et puis, il y a la part État également, qu'on appelle l'aide à la balance. Et cette part État, en fait, le temps que je retrouve mes notes, je vous dis ça tout de suite.
Mais sans entrer
voilà,
forcément dans les détails.
La part État qui est de à la richesse de 25 €, d'accord, avec d'autres parts qui sont au poids. Donc il y a l'aide à la compensation des surcoûts, 7,79 € à peu près, d'accord. Il y a l'aide à la fidélisation qui est de 5 €. Alors ça varie entre 5,09 € et 15,09 €, d'accord. Il y a un complément pour les petits planteurs qui est de 15 €. Et puis il y a aussi donc la part CTM qui est composée de deux façons, une première partie qui est à la richesse également, qui est de 29,60 €. Alors quand je dis à la richesse, c'est à 8 de richesse, hein, d'accord.
Oui.
Et puis, une part forfaitaire qui est de 6,23 €.
Alors, si on ramasse tout ça, si on fait une moyenne, moi, j'arrive demain à l'usine du Galion avec 100 tonnes de canne, je repars avec combien? Là, présentement, aujourd'hui.
Je vais juste rajouter encore deux autres composantes, c'est-à-dire la prime bagasse, c'est-à-dire qu'un planteur qui livre à la sucrerie va également être rémunéré sur, je dirais, la bagasse qu'il prouve que ça va, enfin, que
la fibre que ça va
la
produire.
Fibre, voilà, que ça va produire, qui est environ de 13,40 € par tonne de canne, d'accord. Et puis, il y a aussi toute la part qui est liée au transport, qui est environ de 2,62 €. Donc, vous voyez, il y a plusieurs composantes du prix. Mais, globalement, l'année dernière, par exemple, en moyenne, les planteurs ont reçu à peu près 154,84 € par tonne.
154,84 €
par tonne livrée à la sucrerie.
À la sucrerie. Et
voilà.
Et c'est là où je me tourne vers vous, Claude Feliot, secrétaire général du Code des Roms et secrétaire général du syndicat de l'AOC. C'est pas nouveau, les planteurs préfèrent évidemment livrer aux distilleries parce que là, le ratio il est différent, le calcul est différent et la méthode de paiement est différente.
Alors, globalement, ils touchent à peu près à la même chose par rapport à la sucrerie. Donc, au prix à la tonne, il n'y a pas véritablement de raison d'aller sur une distillerie ou sur la sucrerie. Bon. Par contre, c'est vrai que la composition de la rémunération est beaucoup plus simple parce qu'on paye à la tonne. Tout simplement.
Monnaie sonnante et trébuchante.
Et on s'aligne sur les prix du marché.
Quelle que soit la teneur en sucre.
Alors, c'est plus facile pour nous, tout simplement, parce que la sucrerie a besoin de saccharose. Donc, dans la sucrosité de la canne, il y a plusieurs types de sucre. Vous avez du saccharose, vous avez du glucose, vous avez... voilà. Bon, nous, quel que soit le sucre, il va fermenter et donc on va pouvoir en faire du rhum. La sucrerie, elle a cette difficulté, c'est que tous les sucres ne cristallisent pas, il n'y a que le saccharose. C'est pour ça qu'on utilise deux indices. Il y en a un qui s'appelle le CP, qui mesure, pour simplifier, la quantité de sucre cristallisable dans la canne, alors que nous mesurons ce qu'on appelle le Brix, c'est-à-dire la quantité de sucre tout court à partir duquel on pourra faire du rhum. Voilà.
Très bien. Alors, on entendait tout à l'heure que cette thématique des mauvaises herbes, eh bien, elle coûte de l'argent, elle freine la production, elle perturbe vraiment la filière. En vous entendant tous les quatre, je me pose la question, et elle est vraiment presque naïve ma question, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une saisonnalité de la main-d'œuvre comme dans la vigne, comme dans les vendanges? Pourquoi est-ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Eugénie, que c'est pas un bon signal pour la jeunesse que de les envoyer dans la canne? Mais dans d'autres pays, c'est une saisonnalité. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique du Sud, la saisonnalité des vendanges, ça attire du monde. On sait qu'on vient pour une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. On fait sa saison, on fait ses vendanges. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça sur la canne?
On le fait. D'accord. Mais la difficulté première n'est pas le problème de main-d'œuvre. Le problème de main-d'œuvre est une difficulté à laquelle on a été confronté après avoir été mis en situation d'avoir à recourir à de la main-d'œuvre. Il faut bien comprendre ça. Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on serait pas allé un peu trop vite en verdissement. D'accord? Permettez-moi de rebondir là-dessus. Nous sommes allés à la vitesse où il fallait. En ce qui nous concerne, la filière canne, nous sommes, toute spéculation confondue, mondialement, la culture la plus propre au monde. En termes de recours aux phytosanitaires, pas parce qu'on est meilleur ou plus malin que les autres, c'est tout simplement parce que la canne est une plante magnifique qui est assez robuste et du fait de la sélection variétale, elle est robuste à la plupart des nuisibles de l'agriculture, les insectes, etc., etc. Le seul ennemi de la canne, c'est l'herbe. D'accord? Et du coup, nous avons pu recourir à des solutions phytosanitaires uniquement pour traiter de la problématique des herbes. Depuis que on a arrêté de casser les pieds à la ménagère en brûlant de la canne, vous savez, on est passé, dans les années 80-90, à une solution phytosanitaire. Ce qui fait de nous qui faisait déjà de nous la culture la plus éco-responsable au monde. La précipitation, elle a été de vouloir retirer les molécules phytosanitaires, ce que nous souhaitons, d'accord, nous aussi, mais sans qu'il n'y ait sur le marché de solution alternative durable, tout simplement. Ouais. D'accord? On aurait eu une solution alternative que nous aurions par nous-mêmes, comme nous l'avons fait en 70, dans les années 70, Éric Eugénie est très bien placé là-dessus, pour faire de la lutte biologique parce que la technologie existait. S'il existait aujourd'hui une technologie durable qui nous permettait de lutter contre le seul ennemi de la canne, nous l'aurions fait sans que la norme ne nous le réclame. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, pourquoi on a ce problème de main-d'œuvre? La saisonnalité a toujours existé, sauf que quand on avait besoin de 6 personnes à l'hectare, maintenant il nous en faut 16 ou 18 à l'hectare.
À cause de l'enherbement.
À cause de l'enherbement, c'est à cause de l'absence de solution alternative, oui, au traitement phytosanitaire de l'enherbement, ce qui n'est bien évidemment pas notre souhait de persister.
Bien sûr, parce que c'est un atout, l'éco-responsabilité, ne serait-ce que pour la hausse.
Bien sûr, mais je vais quand même vous rappeler qu'on était déjà le meilleur élève de la classe. D'accord? Et dans une très très large mesure, permettez-moi de faire
un petit d'orgueil. Et dans une grande classe.
Et dans une grande classe. On absorbe 20% des émissions, les émissions polluantes d'une voiture sur 5 en Martinique.
Ah oui, c'est ça, parce que la canne est une plante vertueuse, c'est ce que m'expliquait Éric Eugénie.
On était déjà, une fois de plus, c'est pas parce qu'on était plus malin que les autres, c'est simplement qu'on a beaucoup de chance d'avoir une spéculation qui est magnifique, d'accord? Sa spécialisation, c'est de prendre du carbone pour faire du sucre. C'est ça, elle s'est spécialisée tout simplement pour ça. Donc, on absorbe énormément de CO2. On a donc une contribution au bilan écologique du territoire qui est magnifique. Et en plus, on a une plante qui n'a pour seul ennemi que l'herbe. Donc, j'ai envie de dire que là où on s'est précipité, c'est que si on voulait progresser d'une manière générale pour le bien commun, c'est peut-être pas par la canne qu'il fallait commencer. Sauf que c'est par là qu'on a commencé. Et donc, on se retrouve maintenant avec cette problématique de main-d'œuvre qui n'est pas une problématique d'alternative ou de saisonnalité, mais de quantité. Éric a raison. C'est pas sexy, pardonnez-moi, que de venir dans les champs arracher des herbes. Ça allait beaucoup plus que d'être dans une machine à couper la canne, pilotée comme climatisée, comme c'est le cas, pilotée par GPS, à faire des analyses spectrales, etc. Ça, c'est sexy.
En termes d'attractivité, c'est pas pareil.
C'est ce que nous faisions. Oui. Sauf que nous avons dû régresser pour revenir à des méthodes de notre temps. Tout simplement parce que on s'est effectivement précipité dans le cadre de la transition écologique à vouloir retirer des solutions certes qui ne sont pas satisfaisante. Je tiens à le dire, mais nous n'avons pas de problème avec ça. On a juste un problème avec l'absence d'alternatives durables.
Avec le coût que ça représente aussi
pour les
planteurs.
Avec les conséquences que ça a. Je crois me souvenir en 2017, quand je suis entré dans la filière, que la canne était aux alentours de 80 € la tonne ou 100 € la tonne. Aujourd'hui, on en a à 150. D'accord? Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de matières premières pour la sucrerie et la distillerie. Il manque à peu près 80 000 tonnes de canne. Et que bien évidemment, quand vous avez une demande qui est plus forte que l'offre, ben, ça tire les prix vers le haut.
Voilà. Alors, et concrètement, pour illustrer ce qu'on disait, en 2018, on avait besoin de 5 personnes pour nettoyer un champ de canne, enlever les herbes. Aujourd'hui, c'est 16 personnes. Vous imaginez tout de suite les coûts, le surcoût que ça représente. Mais si on ne le fait pas, on perd la récolte.
Mais du coup, j'ai envie de dire aussi que bon, faire les vendanges et puis couper de la canne, c'est pas la même chose, hein. C'est pas forcément le même travail.
On est bien d'accord. Mais la problématique est-ce qu'aujourd'hui l'usine du Galion est menacée par cette réalité? Parce que si on est est-ce que cette pénurie risque d'être la norme chaque année?
J'ai envie de dire que c'est la filière, de toute façon, de façon générale, qui est menacée. Pas que l'usine du Galion, c'est la filière de façon générale. Et puis, moi, je pense qu'il y a des solutions qu'il faudrait qu'on trouve de toute façon.
Lesquelles? Là, spontanément comme ça.
On travaille dessus.
Olivier Grelot a peut-être des éléments de réponse. On a parlé d'enherbement et aussi de rats. N'oublions pas les rats.
Exact. Donc ça, c'est un problème, la problématique des rats qui font que on a des cannes de mauvaise qualité. Ça participe en plus du problème climatique. Mais juste un ordre de grandeur que vous vous imaginez de la difficulté. Pour remplacer, je dirais, une solution dite chimique, il faut environ 10 passages manuels ou mécaniques.
C'est énorme.
C'est l'ordre de grandeur. Oui. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que nous avons. Et malgré tout le travail, les 16 journées à l'hectare qui sont consacrées par les producteurs pour améliorer leurs champs, le résultat n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est aussi le centre technique qui s'occupe d'estimer la valeur des cannes à sucre en sucrerie, c'est une mission statutaire, mais on se rend bien compte que la valeur des cannes ne valorise pas le travail qui est réellement fait par les producteurs.
Ouais, donc c'est... Il va falloir repenser la filière et malheureusement l'émission touche à sa fin et on va devoir conclure. Mais Claude Féliot, c'est toute la filière qui doit se repenser.
Oui, tout le monde est en danger. Tout le monde, y compris les distilleries, contrairement à ce que certains pourraient penser. Considérez par exemple que ces dernières années, nous n'avons pas pu, certaines saisons, renouveler nos stocks de rhum vieux. D'accord ? Parce que nous n'avions pas produit assez. Donc tout le monde est menacé. Bien évidemment, certains résisteront mieux que d'autres, mais tout le monde est menacé. Et là, il y a vraiment urgence à trouver un remède avant que le malade ne meure. Hein. Ok. Donc voilà, c'est oui, tout le monde est menacé.
Tout le monde est menacé. Le mot de la fin pour vous, Éric Eugénie, la récolte 2024, elle s'achève dans à peu près un mois et demi, deux mois. On est parti pour quelle date à peu près?
Je pense que la récolte va se terminer en fin juin, à peu près. C'est le temps classique, le temps traditionnel. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette fin de récolte soit meilleure que le début?
Alors il faut du soleil. Il faut du soleil, ça c'est indispensable pour la canne. La canne a besoin de soleil pour faire son sucre. Hein. Donc ça peut aller très vite. Un peu d'eau, la richesse descend du soleil, ça remonte. Donc il faut du soleil. Les tonnages, quand même, malgré les rats, ne sont pas trop mauvais, a priori. C'est vraiment un problème de richesse.
Et il serait de combien de tonnage cette année? 200 000?
On a fait 208 000 l'année dernière. On espère ne pas baisser à moins de 200 000 tonnes.
Non, à moins de 200 000 tonnes. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour dresser les bilans de cette saison 2024 de la récolte de la canne. Merci à tous les quatre d'être venus.
C'est déjà fini.
C'est déjà fini. C'est déjà fini. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir nous parler de cette filière canne sucre rhum qui doit se renouveler. On l'a compris. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de vos mardis éco société à retrouver en replay sur rci.fm dans quelques instants. L'info revient dans quelques secondes. Excellente soirée à tous.
Merci. Merci.
Chaque jour, vous vivez vivez des moments uniques. Allouego est fier de vous accompagner sur les routes de Guadeloupe et Martinique. Allouego, votre loueur local, c'est un large choix de voitures et utilitaires pour particuliers et professionnels. Rendez-vous sur www.allouego.rent et au 0801 101 101. En Guadeloupe et Martinique, faites confiance à votre loueur local.
Allouego ?
En ouaille !
Mercedes-Benz.
Quand on est grand, tout paraît trop petit et mal adapté. Les sièges d'avion, trop petits. L'évier de la cuisine, trop bas. Votre lit, pas assez long. Mais quand vous rentrez dans un fourgon Mercedes-Benz Citan, tout est parfaitement adapté à vos besoins. Le nouvel e-Citan, fourgon 100% électrique, bénéficie d'un volume de chargement de 3,3 mètres cubes et c'est un partenaire de vie et de travail spacieux et fiable au quotidien.
En ce moment, profitez de l'offre en défiscalisation sur le Mercedes-Benz e-Citan 100% électrique à partir de 399 euros par mois.
Mercedes-Benz, the best on nothing.
Pensez à covoiturer. Offre en défiscalisation réservée aux professionnels éligibles, voire conditions en concession.
L'heure avec BMW Martinique. Des voitures de qualité à prix métropole. Offrez-vous le meilleur. Le top horaire avec l'Express des Îles pour des vacances moins chères.
En avril, les prix Métropole sont garantis sur une sélection de modèles BMW chez 3AM. Hybride rechargeable, berline, modèle électrique.